Florence Paracuelos, le journal. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, des élèves médiocres qui deviennent bons. Ils obtiennent leur bac grâce aux efforts pédagogiques de leur lycée. Il n'y a pas qu'Henri IV et Louis le Grand qui trustent les palmarès des lycées de Clichy ou de Drancy. Ils s'en sortent aussi très bien chez eux. On progresse. Reportage dans un instant. La dignité d'un maire et d'une ville, le maire de Trèbes, décoré aujourd'hui à l'Élysée à la tête d'une commune résiliente. Un an après l'attentat du Super U. Beira, au Mozambique, on dirait la fin du monde après le passage du cyclone, nous dira une humanitaire sur place. Nous sommes aussi à Washington, où Donald Trump a reçu son nouveau meilleur ami, Jair Bolsonaro, et à Bruxelles, qui s'irrite du retard britannique sur le Brexit. La politique en France, ou comment repenser le conservatisme politique à droite, on en parle avec votre invité, Nicolas.
Le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. Le livre qu'il publie s'intitule « Refondation ». C'est aux éditions de l'Observatoire. Il est dans le grand entretien de la matinale dans une vingtaine de minutes. Vous avez la parole, évidemment. 01 45 24 7000.
À la une également la colère des victimes du père Prénat après le rejet de la démission du cardinal Barbarin. Le pape François, c'est Judas, dit l'un d'entre eux. La réforme de l'UNEDIC, est-ce qu'elle va faire perdre aux chômeurs? Les syndicats ont sorti la calculette. Et puis dites adieu à vos consoles. Google annonce la révolution des jeux vidéo en ligne, en streaming.
France Inter.
Lycée Henri IV, 100% de réussite au bac, 97% de mention, toujours dans le trio de tête des 20 meilleurs lycées de France, dont le palmarès vient d'être dévoilé par l'Éducation nationale. Mais quel mérite a amené de très bons élèves jusqu'au bac? L'élitisme est-il le seul indicateur d'un bon lycée? Heureusement non, alors que vous entendez depuis 7 heures ce matin des élèves d'interclasse, l'opération que France Inter monte chaque année avec des collégiens du réseau d'éducation prioritaire. On s'intéresse à ce qui fait la valeur ajoutée de certains lycées loin des centres-villes, leur capacité à faire progresser les élèves. Sonia Bourane, vous vous êtes rendue au lycée Eugène Delacroix de Drancy, en Seine-Saint-Denis. 84% de réussite au bac l'an dernier, alors qu'on n'en attendait que 73. Voici là-bas quelles sont les clés du succès.
Le maître mot dans ce lycée, c'est bienveillance. Et ça commence par un sourire le matin aux 2000 élèves. Gilles Beck est conseiller principal d'éducation au lycée Eugène Delacroix et dirige l'équipe des surveillants.
Ils sont pas là juste pour fliquer les élèves, ils ont un rôle éducatif. Et on insiste tous les jours sur le fait qu'ils doivent dire bonjour à la grille, qu'ils doivent vraiment accueillir les élèves et avoir une bienveillance vis-à-vis d'eux. Le climat s'est apaisé, en fait, tout simplement. Depuis 3 ans, je suis les mêmes élèves, la seconde, la première et la terminale. Et sur mes élèves, j'ai eu qu'un seul conseil de discipline avec une exclusion définitive. Donc on fait vraiment tout pour accompagner les élèves et pour les garder dans l'établissement et pour les mener à la réussite.
Exemple de réussite, Emma Jacques est en terminale, elle était en échec scolaire, absentéiste, elle est passée par 2 autres lycées avant d'arriver ici.
J'ai vraiment vu la différence, j'ai vraiment eu un suivi. On m'a vraiment encadré, on m'a vraiment poussé pour que j'arrive aux félicitations que j'ai eues à mon premier conseiller de classe. Je suis assez confiante pour le bac. Mes professeurs me le répètent chaque jour. Ils sont assez fiers du travail que je fournis. Ils sont positifs.
Positifs, les professeurs donnent confiance aux élèves et forment une équipe très soudée. En parallèle des cours, ils proposent 63 projets différents. Ateliers Sciences Po, initiation à l'art oratoire, cinéma, théâtre. La pédagogie de projet fait aussi partie des recettes pour faire réussir les élèves.
Sonia Princey, et après la résilience scolaire, la résilience d'une ville à l'honneur. Ce matin, Trèbes dans l'Aube, un an après l'attentat du Super U, 3 personnes abattues dans ce supermarché, une 4e à Carcassonne. Trèbes dans le maire recevra la Légion d'honneur à l'Élysée cet après-midi, Rémi Brancato.
Dans les salons de l'Élysée cet après-midi, il y aura de la fierté de recevoir cette Légion d'honneur pour Éric Ménassy. Mais pour lui, c'est une distinction avant tout collective.
Cette décoration, elle est le symbole d'une ville courageuse et d'une ville qui a dû faire face à ce qu'il y a de plus abject.
L'abjection de cet attentat, 4 morts, dont 3 à Trèbes dans le magasin Super U dirigé par son épouse, elle aussi sera décorée aujourd'hui. Une preuve qui a rendu la ville et ses habitants plus forts, assure le maire.
Moi, ce qui m'a profondément touché, avant tout, c'est la dignité des familles. Elle nous oblige. C'est toute une ville qui a pu les accompagner dans cette terrible épreuve. Moi, je suis très fier de ça. Il aurait été facile de céder à toutes les sirènes du populisme, à une haine ordinaire. Il n'en fut rien.
Et les habitants se sont à nouveau montrés solidaires en octobre quand le sort s'est acharné, 6 morts dans les inondations. L'élu se dit marqué par cette année.
Évidemment, vous ne sortez sortais pas indemne d'épreuves aussi fortes. Ce qui a changé profondément en moi, c'est cette formidable énergie qui a été décuplée. Il est hors de question que le fanatisme gagne.
Hors de question aussi de baisser les bras pour Éric Ménassy. Samedi, la ville rendra hommage aux morts de l'attentat et espère débuter une année plus sereine.
De Trèbes à Utrecht, aux Pays-Bas, la piste terroriste est de plus en plus sérieusement envisagée après la fusillade de lundi. C'est un homme d'origine turque qui a tué trois personnes dans un tramway.
Il est 8h06, voilà maintenant une catastrophe naturelle et humanitaire dont on mesure, Florence, chaque jour un peu plus l'ampleur.
Ce cyclone qui a balayé l'Afrique australe la semaine dernière, le Mozambique est le pays le plus touché, 200 morts pour l'instant, mais le bilan sera sans doute considérable. Les autorités parlent de 600 000 sinistrés, les besoins sont énormes dans la deuxième ville du pays, Beira, méconnaissable depuis le passage du cyclone. Écoutez le témoignage de Déborah Nguyen du Programme Alimentaire Mondial, elle se trouve sur place au centre opérationnel d'urgence de Beira.
On dirait que c'est la fin du monde, tout est détruit, les gens ne savent pas trop où se réfugier, ils n'ont plus rien, donc c'est assez difficile à voir et on se sent un peu démunis face à la situation, surtout pour les villages qui sont complètement inondés et sous l'eau. C'est très difficile puisque les opérations de secours doivent choisir en fait quelle vie sauver puisqu'ils ne peuvent pas sauver tout le monde avec les petites barges qu'ils ont utilisé pour les opérations de secours. Ils ont dû même aller à la nage pour trouver les personnes, les bébés pris au piège par les inondations. Voilà, c'est un paysage vraiment catastrophique.
Voilà, Déborah Nguyen, humanitaire au Mozambique, au micro de Sébastien Duhamel d'RFI. Quand un populiste du Nord rencontre un populiste du Sud, que se raconte-t-il ? Jair Bolsonaro chez Donald Trump, le Brésilien, admirateur de l'Américain. C'est d'ailleurs sa première visite à l'étranger. Et Grégory Phillips, quelle complicité entre les deux hommes !
Dans le bureau ovale, la rencontre débute par un échange de maillots de football et Trump reçoit en cadeau celui de la Seleção, numéro 10, avec son nom dans le dos. Jair Bolsonaro dit qu'il n'a jamais cessé d'admirer Donald Trump et que le Brésil n'a jamais connu de président aussi pro-américain. Voilà pour les amabilités. Puis les deux hommes se retrouvent dans la roseraie de la Maison Blanche pour une conférence de presse commune. Le Venezuela a évidemment été au cœur de leur discussion. Nous appelons les militaires vénézuéliens, dit Trump, à arrêter de soutenir Maduro, qui n'est rien d'autre que la marionnette de Cuba, et nous leur demandons de rendre la liberté à leur peuple. L'heure du socialisme a sonné sur le continent américain. Puis c'est au tour de Jair Bolsonaro de prendre la parole. En conclusion, je dirais que le Brésil et les États-Unis sont côte à côte pour défendre la liberté et le respect des valeurs familiales traditionnelles, défendre Dieu, notre créateur, et se battre aussi contre l'idéologie, la théorie du genre, le politiquement correct et même les fake news. L'allusion aux fake news fait sourire Donald Trump qui applaudit. Les deux pays vont aussi renforcer leur coopération économique. Les États-Unis et le Brésil n'ont jamais été aussi proches, conclut le président américain. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et Donald Trump a même évoqué la possibilité de faire entrer le Brésil dans l'OTAN.
Il est 8h09, Brexit saison 3.
Interminable celle-là, le dernier épisode n'aura pas lieu, c'est quasiment sûr le 29 mars. À 10 jours de l'échéance, complètement bloqué avec son accord de sortie qui ne passe pas, Theresa May devrait officiellement demander dans la journée le report du Brexit. Sauf qu'à Bruxelles, Johanna Holstein, on commence sérieusement à perdre patience.
Agacement, frustration, exaspération. Pour certains, voilà les sentiments qui dominent au Parlement européen. Le scénario d'un report du Brexit est sur toutes les lèvres ici aussi. S'il est envisageable pour la présidente de la délégation des socialistes français, il faut qu'il serve à organiser un nouveau référendum. Christine Revaud-Dallone.
Un deuxième référendum, mais sur l'accord qui a été conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. C'est sur celui-ci et pas reposer la question qui a été posée le 23 juin 2016. Ça n'est pas possible. Ça voudrait dire qu'il y aurait une défiance vis-à-vis du premier référendum.
Autre préoccupation, le sort des 73 eurodéputés britanniques. Que leur arrivera-t-il s'il y a un report du Brexit au-delà des élections européennes ? Se demande le député néerlandais libéral Matthijs van Miltenburg.
Moi j'ai des collègues britanniques, ils ne savent plus sur quel pied danser. Ils ne savent plus si finalement ils font partir le 29 mars, s'ils doivent encore rester quelques mois. si finalement ils doivent quand même se présenter aux élections qui doivent se tenir.
Les parlementaires viennent d'adopter une série de textes pour tenter de limiter les dommages en cas de no deal, notamment au niveau du secteur des transports. Johanna Hochstein à Bruxelles, France Inter.
Manifestement, les catholiques ont du mal avec la décision du pape concernant le cardinal Barbarin, démission rejetée le temps de l'appel judiciaire du prélat condamné en première instance pour ne pas avoir dénoncé les actes pédophiles commis par le père Prénat. L'archevêque de Lyon se met simplement en retrait du diocèse, ce qui émeut une partie de ses confrères. Et c'est évidemment bien plus que cela pour les victimes du père Prénat. Écoutez la colère de François Devaux, colère contre le pape François, de la part du cofondateur de la Parole Libérée.
On a affaire à quelqu'un qui vraisemblablement est un traître, est un Judas. La différence avec Judas, c'est que Judas, il n'avait pas de pouvoir, contrairement au pape, qui lui en reste encore un peu. Quand on prône des valeurs et qu'on ne les respecte pas, quand on reçoit des rapports de l'ONU et qu'on n'y répond pas, quand on fait des promesses de mettre en place des tribunaux pour juger les évêques négligents, quand on prône une tolérance zéro et qu'on ne l'applique pas, on peut difficilement qualifier ça autrement que comme ça. C'est de l'hypocrisie. L'abus est intrinsèque à cette institution et partout où elle va, partout où elle emmène l'abus. Et l'abus, il est pédophile, mais pas que pédophile. Il est spirituel, il est de pouvoir, il est sur les religieuses. Il y a un problème intrinsèque à cette église et le pape, aujourd'hui, porte l'entière responsabilité de cela.
Voilà, coup de gueule de François Devaux, cofondateur de la Parole Libérée, au micro de France Info ce matin. Le grand ménage à la préfecture de police de Paris. Le directeur de cabinet du préfet limogé sera officiellement démis de ses fonctions en Conseil des ministres aujourd'hui, rejoint par le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération. Et puis après l'épisode parisien, Christian Estrosi demande au gouvernement d'interdire les rassemblements de gilets jaunes prévus samedi et dimanche prochain dans sa ville de Nice. Un appel national a été lancé comme à Toulouse ou à Montpellier. Et si la crise des gilets jaunes avait reboosté l'économie, l'INSEE annonce une croissance française supérieure à celle de la zone euro au premier semestre. Les mesures prises pour répondre à la contestation devraient relancer le pouvoir d'achat. 2 millions de salariés ont par exemple reçu une prime exceptionnelle de fin d'année de 450 euros. En moyenne.
8h12, mais là on passe au sujet qui fâche.
Et oui, la réforme de l'indemnisation des chômeurs auquel le gouvernement met la dernière main après l'échec des négociations entre les syndicats et le patronat. On parle de plusieurs milliards d'euros d'économies et les syndicats, Laurent Kramer, ont fait les comptes. Hein.
Malgré le contexte social, le gouvernement ne désarme pas et prépare à Matignon les décrets d'application pour transformer l'assurance chômage. Avec 4 milliards en moins sur les indemnités versées ces 3 prochaines années, le gouvernement s'entête dans une logique pour le moins déconcertante du pouvoir d'achat, souligne Marie-Lise Léon à la CFDT.
Il y a une contradiction effectivement entre le fait de vouloir relancer l'économie et de baisser les ressources des demandeurs d'emploi qui ne touchent pas une allocation par hasard. C'est parce qu'ils ont travailler, c'est un système assurantiel, parce qu'ils ont travaillé, ils ont droit à une allocation au chômage. La philosophie du gouvernement, c'est de considérer que les règles ne sont pas incitatives.
Les droits rechargeables et le calcul des indemnités des demandeurs d'emploi qui alternent petits contrats et périodes d'allocation chômage sont dans le collimateur du gouvernement. Durcir l'acquisition de ces droits au chômage touchera en priorité les 900 000 chômeurs les moins indemnisés, estime Denis Gravouille à la CGT.
On a calculé qu'en moyenne, la baisse qui est prévue pour à peu près les 900 000 personnes, c'est 1444 euros d'allocation en moins par an. Pour des gens qui, en général, sont dans des revenus en moyenne de 1200 euros par mois, c'est-à-dire à peine le SMIC.
Pour les cadres, le gouvernement prévoit enfin d'abaisser le plafond d'indemnisation à 4000 euros contre 6000 aujourd'hui, logique contestée aussi bien par la CFDT que par la CGT.
6 et 10 mois de prison ferme requis contre 2 activistes anti-viande hier soir à Lille. On vous en parlait hier, ils étaient jugés pour avoir dégradé ou incendié des boucheries et des restaurants du Nord. À la barre du tribunal, ils ont tous les deux dit qu'ils regrettaient leurs actes. Première victoire pour les aînés de Johnny aux États-Unis. Un tribunal californien refuse de transférer ses redevances de maisons de disques et ses motos sur place au trust géré par sa veuve Laura Smet et David Hallyday contestent le dernier testament de leur père qui lègue tout à Laetitia, comme le droit américain l'autorise, qui n'est pas le cas en France.
Enfin,
Mais oui.
Les consoles de jeux,
ouais,
la fin.
La fin, parce que Votre lecteur de CD mis au rancard, Nicolas, oui. Votre lecteur longtemps. De DVD entreposé à la cave, oui. Les consoles de jeux, c'est sans doute le même avenir qui les attend, le même destin. Google annonce la révolution streaming, jouer sans télécharger, jouer directement en ligne. Ce nouveau service lancé dans l'année s'appelle Stadia, un Netflix ou un Spotify du jeu vidéo. Explication signée Olivier Bénis. This
is Stadia. L'idée n'est pas neuve et plusieurs entreprises, notamment en France, le proposent déjà. Au lieu de mettre un disque ou d'installer un jeu vidéo sur votre console ou sur votre PC, le jeu est lancé sur un ordinateur surpuissant chez Google et diffusé en direct sur votre écran pendant que vous y jouez. Un peu comme quand vous regardez un film directement sur Netflix plutôt que sur un DVD. La différence ici, c'est la puissance de feu d'un géant comme Google qui promet une expérience de jeu sans aucune interruption et avec une qualité visuelle et sonore supérieure aux consoles les plus puissantes du moment. D'ailleurs, Google le promet. Pour en profiter, il ne faudra pas de matériel spécifique. On pourra commencer une partie sur son ordinateur avant de la continuer sur sa télé, puis sur un smartphone. C'est peut-être une révolution, mais elle n'est pas sans risque. Celui de renforcer le monopole de Google sur à peu près tout, de renforcer la fracture entre les zones bien desservies en Internet très haut débit et les autres, mais aussi de faire peser un nouveau poids énorme sur le débit de l'Internet mondial et donc indirectement sur l'environnement.
Et si vous voulez vraiment tout comprendre, tout savoir sur Stadia, cette nouvelle application, rendez-vous sur franceinter.fr évidemment.
Et qu'est-ce qu'on va voir au cinéma ?
Ah ben rien.
Rien,
Nicolas.
Ah ben d'accord, c'est fini. D'accord. J'avais une dernière page. Qu'est-ce qu'on va voir au cinéma ce mercredi ? Bah, on en parle hors antenne. Merci beaucoup Florence Paracuelos.